Une indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options.
On va juguler les réajustements périodiques du cash flow.
Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête.
Faut être un petit peu plus clair.
Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 016 TTC proposés par le CNDA à la SRJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque.
Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série sur l'héritage, on se demande s'il ne faudrait pas, tout simplement, l'abolir. Commençons par dissiper une vieille idée reçue. Non, la France ne taxe pas lourdement les héritages. Vous avez déjà sûrement entendu le chiffre de 45%. Ce sont les droits de succession en ligne directe, c'est-à-dire l'héritage que reçoit un enfant de la part de ses parents. 45%, c'est énorme, non ? C'est même 60% si on touche un héritage d'un non-parent. Mais en réalité, ces taux élevés correspondent à des taux marginaux supérieurs, c'est-à-dire ce que l'on prélève uniquement sur les sommes les plus élevées, pas sur tous les héritages. D'autant plus qu'il y a des abattements, mais aussi beaucoup de possibilités de contournement de l'impôt. C'est ce qu'explique Clément d'Herbécourt, économiste chez France Stratégie, que je vous ai déjà présenté la semaine dernière.
L'impôt sur les successions, on va le payer une ou deux fois ou trois fois dans sa vie, alors que, par exemple, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation, ben, tu la payes tous les ans. Et du coup, c'est un impôt qui est très très peu connu. On en retient souvent dans le débat public deux chiffres. C'est l'abattement de 100 000 euros qui permet de pas payer d'impôts. Donc, tous les juristes, tous les conseillers en fiscalité vont expliquer qu'il faut absolument pas dépasser 100 000 euros parce que au-delà de ça, c'est taxé. Et le deuxième chiffre, c'est le taux marginal supérieur en ligne directe, qui est de 45%.
D'ailleurs, plus vous avez de patrimoine à transmettre, plus vous pouvez trouver des professionnels qui vous conseillent de manière à éviter de payer des impôts. C'est le travail des gestionnaires de fortune, des avocats fiscalistes et même des notaires. Au total, d'après les calculs de Clément d'Herbécourt, qui n'ont pas été simples parce qu'on manque de données dans ce domaine, les héritages sont très peu taxés.
Et quand on fait cet exercice-là, oui, on se rend compte que la taxation des héritages, c'est 5% en moyenne en France aujourd'hui. Et en ligne directe, c'est-à-dire les transmissions qui vont concerner les enfants, les petits-enfants, c'est plutôt de l'ordre de 3%. Donc ça n'a rien à voir avec les chiffres qui circulent dans le débat public et qui sont concentrés sur les taux marginaux supérieurs. Et je pense que du coup, il y a un enjeu de connaissance du sujet.
Donc, la semaine dernière, on a vu que l'héritage générait des inégalités. Et pour l'instant, on sait aussi qu'il est très peu taxé. 65% des successions ne sont pas taxées. Et sur les 35% restants, le taux moyen est de 5%. Alourdir la fiscalité sur l'héritage, ce n'est pas nécessairement le premier pas vers le socialisme. Ça peut même être une mesure très libérale. Par exemple, Bill Gates ou Warren Buffett, pas vraiment des marxistes-léninistes, ont décidé de ne léguer presque rien de leur immense fortune à leurs enfants. Ils croient, à tort ou à raison, qu'il faut que chaque génération fasse ses preuves, sans compter sur ses parents. Dans le cas contraire, on n'a bien sûr pas beaucoup de mérite à devenir riche. Or, Buffett, comme Gates et avant eux Durkheim, dont on a parlé dans l'épisode précédent, pensent qu'une société juste est une société méritocratique, où chacun peut avoir la possibilité de faire fortune grâce à son talent et son travail, pas grâce à sa famille.
Noblesse, fortune, un rang, des places, tout cela rend si fier. Qu'avez-vous fait pour tant de bien ? Vous vous êtes donné la peine de naître, et rien de plus.
Bien sûr, on en est très loin. Mais dans cette optique, il faudrait commencer par réduire le poids de l'héritage. Alors, comment on fait ? Il y a deux pistes possibles. Soit on taxe davantage des héritages, et ça peut recouvrir plusieurs solutions différentes, soit on agit sur autre chose que la fiscalité.
Faut-il abolir l'héritage ?
Augmenter les droits de succession. Est-ce une bonne idée et comment ?
À l'heure actuelle, le problème, c'est qu'on a un système qui est totalement illisible. Donc, on a à la fois des taux qui sont importants. En ligne directe, c'est 45%, le taux maximum. Et en ligne indirecte, ça monte jusqu'à 60%. Donc, c'est quand même des taux qui sont pas négligeables. Si déjà ces taux étaient appliqués, il y aurait un effet important en termes de réduction des inégalités de patrimoine hérité en France. Hein, c'est indéniable. Le problème, c'est que ces taux-là, déjà, ils s'appliquent que pour des montants très, très, très élevés. Et donc, il y a très, très peu de gens qui sont concernés, finalement. Et que d'autre part, comme tu l'as dit, il y a énormément de niches fiscales dont on est absolument incapable de dire exactement si elles sont énormément utilisées, peu utilisées, dans quelle mesure elles permettent de réduire énormément ou pas les impôts payés. Mais on sent bien que il y a des capacités très importantes de réduire son impôt. Si tu penses par exemple au démembrement de propriété. C'est un sujet qui est assez peu connu, mais tu peux transmettre à tes enfants la nue propriété d'un bien et garder l'usufruit jusqu'à ton décès. Eh ben, si tu te prépares suffisamment à l'avance, tu vas pouvoir économiser 90% des frais de succession que tu vas payer à ton décès. Cette niche fiscale, elle n'est pas du tout limitée.
Sur les niches fiscales, il faudrait carrément faire un épisode entier de Splash. Les abattements et exonérations d'impôts correspondent souvent à des mesures destinées à favoriser l'investissement et à faire circuler la richesse vers les entreprises en particulier. Dans les faits, c'est un fouillis de dispositions qui permettent surtout d'optimiser vos placements pour éviter le fisc.
Peut-être que tu en as marre de payer plein d'impôts, d'avoir à payer ici, des taxes de partout. Et le problème, c'est pas en fait le choix de payer des impôts, le problème, c'est de payer des impôts.
À commencer par l'assurance vie. Ce type de placement est défiscalisé. Je n'entre pas dans les détails, mais tout le monde s'accorde, à droite comme à gauche, pour dire qu'on a un droit fiscal plein de recoins et de crevasses et qu'il faudrait commencer par le rendre plus lisible. Pour aller plus loin, beaucoup de propositions de réforme fiscale ont déjà été formulées. Je vous en cite trois. La première est déjà ancienne. Elle a été formulée par Luc Arandel et André Masson en 2009. Ils estimaient déjà qu'il fallait accroître la progressivité des droits de succession, c'est-à-dire faire en sorte que les pauvres payent encore moins et que les riches payent encore plus. L'objectif qu'ils défendaient était d'inciter les détenteurs de gros patrimoines à faire plus de donations à leurs enfants. Ça permettrait de faire circuler la richesse sans attendre l'âge tardif auquel on hérite de nos jours. Donc, on réduit les inégalités entre générations, mais on ne touche pas aux inégalités de patrimoine au sein d'une génération. Deuxième réforme possible, proposée par Thomas Piketty dans son dernier livre. Un héritage de 120 000 euros pour tous les jeunes de 25 ans. Là encore, on rajeunit le capital. Mais surtout, on le socialise. Ça coûte cher, environ 5% du PIB. Donc pour le financer, il faudrait augmenter la progressivité des droits de succession. Faire payer plus ceux qui héritent de beaucoup. Et à terme, il faudrait même revoir entièrement la fiscalité sur la propriété privée. Autrement dit, il faudrait qu'une partie du capital, celui des entreprises notamment, soit soustraite au patrimoine familial et devienne une propriété temporaire. C'est l'une des idées centrales de Thomas Piketty. Pour que la France ne devienne pas une société d'héritiers, il faut que le patrimoine circule et ne soit pas accumulé au fil des générations. Troisième idée, défendue par France Stratégie. Il faut taxer non pas l'héritage au moment où on le reçoit, mais l'ensemble du patrimoine familial que l'on reçoit tout au long de sa vie.
C'est-à-dire qu'on taxe les successions, enfin, on taxe les parts qui sont transmises à chaque héritier indépendamment. C'est-à-dire que si tu as un individu qui va hériter de son père, de sa mère, de son oncle, qui va recevoir plusieurs donations, le système actuel ne prend pas en compte l'ensemble de ce qui a été reçu par l'individu au cours de sa vie. Il va taxer à chaque succession les parts qui ont été reçues par l'individu. Il n'y a pas de vision d'ensemble. Et donc, du coup, dans un tel système, si tu fais des incitations pour des donations, ça va forcément profiter aux plus riches.
À l'heure actuelle, on favorise les donations et on taxe peu chacun des héritages. À l'inverse, l'idée que défend Clément d'Herbécourt, c'est que si vous recevez beaucoup de patrimoine de votre famille, vous payez plus d'impôts. Si par exemple vous avez reçu 100 000 euros de donation, puis 200 000 euros d'héritage, puis 50 000 euros de donation de la part d'un autre parent, eh bien au total vous avez 350 000 euros de patrimoine hérité.
Excusez-moi, parce que l'héritage il est où ? Les 100 patates ?
L'héritage.
Sur les derniers 50 000 euros, le taux d'imposition sera plus élevé que sur les premiers euros reçus. Et vice-versa. Les plus pauvres seraient peu taxés. On peut également introduire dans ce système des conditions d'âge. Ça paraît raisonnable de moins taxer le patrimoine reçu à 25 ans que celui que vous recevez à 60 ans. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à abolir complètement l'héritage ? Ça semble compliqué. Pour des raisons juridiques d'abord, qui comme souvent témoignent de toute une histoire accumulée. Taxer à 100% les successions, ça signifie ne pas respecter la liberté fondamentale attachée à la propriété privée. La liberté de faire ce que l'on veut des biens qui nous appartiennent. Et des sociétés dans lesquelles l'héritage a été taxé à 100%, on n'en trouve quasiment aucune, à part dans l'ex-Union soviétique. Ce serait un immense pas à franchir, socialement et politiquement. Parce que ça s'accorde mal avec l'idée que l'on se fait de l'héritage encore de nos jours. Selon Céline Bessière, l'une des deux co-autrices du genre du capital que je vous ai également présenté la semaine dernière.
C'est le fait que, dans les familles, il y a vraiment ce souci assez partagé que ces enfants aient un statut social aussi bien que soi, en fait. Que ça peut être un désir d'ascension sociale pour ses enfants ou un désir de maintien du statut social pour ses enfants. Bon, ça, c'est quelque chose qui est un sentiment assez partagé. Et même quand on est critique, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que même quand on est critique de l'héritage, on a envie que ses enfants ils aient une vie aussi bien que la sienne. Donc ça, je pense que c'est très dur à attaquer, ce truc-là.
L'héritage est attaché à la famille et aux transmissions familiales.
Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert. Nous sommes issus d'une famille qu'on ne peut plus souffrir. Nous sommes issus d'une famille qui n'a jamais souffert.
Il reproduit donc et il accentue les arrangements de famille qui ont tendance à défavoriser les femmes. On l'a montré dans l'épisode précédent. Donc ça signifie qu'une autre piste pour s'attaquer aux inégalités de patrimoine, c'est précisément d'agir pour que les femmes subissent moins les stratégies patrimoniales décidées par les hommes. Un exemple, développé par Sybille Golac, la co-autrice de Céline Bessière.
On voit aujourd'hui que le patrimoine hérité, il est de plus en plus important pour se loger, pour payer les études de ses enfants, pour subvenir à ses besoins dans ses vieux jours. Et un moyen de lutter contre le poids de l'héritage dans les inégalités, c'est précisément de faire en sorte que ce patrimoine hérité il compte moins. Dans le livre, on mentionne le cas d'une femme qui accepte un partage inégal au moment de l'héritage en faveur de son frère, qui par ailleurs raconte qu'elle a divorcé deux fois et qu'à chaque fois, elle a laissé la maison à ses ex-conjoints. Et pour elle, c'est une forme de liberté qu'elle a prise. Elle n'avait pas envie de se sentir dépendre de l'argent de ses parents, de conflits avec ses ex-conjoints.
Ce que cet exemple montre parmi bien d'autres, c'est qu'il faudrait éviter que le patrimoine conduise les femmes à rester dans une relation de couple qu'elles subissent, ou bloque les enfants dans la stratégie conçue par leurs parents. Les enfants d'artisans et de commerçants, par exemple, sont amenés à reprendre l'entreprise familiale pour certains, souvent les hommes, et à subir cette stratégie pour d'autres, souvent les femmes. Comment on agit là-dessus, sachant que ces arrangements et ces stratégies se font au sein des familles? Une première piste, c'est d'individualiser le paiement des impôts. En somme, ne plus considérer le ménage, c'est-à-dire le plus souvent un couple et ses enfants, comme l'unité de base de la fiscalité et des prestations sociales. Céline Bessière fait à ce propos une comparaison éclairante.
En ce moment, il y a quand même pas mal de groupes qui sont en train de se mobiliser là-dessus, sur l'allocation adulte handicapé. Pourquoi est-ce qu'elle dépend des revenus du conjoint? Ben, on peut se poser exactement la même chose pour l'allocation de soutien familial qui est versée par la CAF ou le RSA. Tout ce système socio-fiscal qui est pensé à l'échelle familiale, c'est pas sûr du tout que ça bénéficie aux femmes en réalité. Sybille le disait, le système d'imposition sur le revenu, le fait qu'on soit passé à un système d'imposition à la source, mais sans interroger le fait qu'il y ait un taux d'imposition commun au couple, alors qu'il pourrait tout à fait, et ça serait très facile à faire, être individualisé pour tout le monde.
Une autre piste, c'est d'agir sur la manière dont le droit est appliqué, plutôt que seulement sur le droit.
Ce qui interroge aussi, ça pose aussi la question de qui sont ces professionnels qui interviennent au moment des successions dans l'évaluation et la distribution de la richesse. Et nous, les professionnels auxquels on s'est intéressés, ce sont les notaires. Et les notaires, ils ont un statut très particulier parce qu'ils sont à la fois officiers ministériels, c'est-à-dire que l'État leur confie une mission de service public. Ils sont notamment chargés de collecter les droits de succession, les droits de partage, les droits de mutation. Et dans le même temps, ce sont des professions libérales.
Les notaires ont un devoir de conseil envers leurs clients, qui les conduit à les aider à payer moins d'impôts. Mais aussi une mission de service public au nom de laquelle ils collectent des impôts. C'est pour le moins étrange. Et ça les conduit également à légitimer les inégalités de patrimoine qui sont frappées du sceau du droit par la profession. L'une des pistes pour amoindrir ces inégalités, ce serait donc de transformer les notaires en fonctionnaires. Eh oui, rien que ça. Ça ne leur plaira pas beaucoup, mais c'est une profession qui a besoin d'être réformée depuis bien longtemps.
Concernant mes honoraires, frais notariés plus frais d'agent généalogique compris, la somme ne s'élève qu'à 13 250 francs. Les arrondissants, 13 000, pas chipoté, voilà, vous signez là.
D'ailleurs, vous vous rappelez de l'épisode de Splash sur les notaires? Quoi, vous ne l'avez pas encore écouté? Alors faites-le vite, c'est l'épisode 8 de la saison 1. Plus généralement, ce sur quoi insistent les chercheurs et les chercheuses en sciences sociales, c'est le revirement complet auquel on a assisté depuis un demi-siècle. L'héritage semblait une idée du passé, qui avait cédé le pas face au système de solidarité publique, comme les retraites par répartition ou l'impôt progressif sur le revenu. Et au contraire, de nos jours, on voit le poids de l'héritage s'alourdir très fortement, y compris dans la propriété des entreprises et leur management, comme l'avait montré Thomas Philippon en 2007. Donc, on ne peut pas en rester là. Tout ce qui peut contribuer à amoindrir l'importance de l'héritage dans la destinée des générations actuelles et futures est bienvenu. On ne taxera sans doute pas l'héritage à 100%, ni demain, ni même dans 10 ans. Mais on doit avoir ce débat, démocratiquement, pour s'attaquer au mécanisme de cette société d'héritiers qu'est devenue la société française. Ce n'est sans doute pas un hasard si on a vu se multiplier les propositions de réforme dans ce domaine. Je ne les ai pas toutes citées, mais je finis par une dernière. Gabriel Zucman et Emmanuel Saez défendent, aux États-Unis, l'idée d'une taxe progressive sur le patrimoine. Ça semblait une mesure révolutionnaire il y a encore 3 ou 4 ans. Et puis, c'est devenu l'un des débats centraux de la primaire démocrate en 2020. À suivre. Splash est une émission écrite et présentée par moi, Emmanuel Martin, produite et montée par Marine Rowe, enregistrée et mixée à l'Arrière Boutique Studio, coordonnée par Mathilde Jonin. Splash est une production Nouvelles Écoutes. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et les références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission. Envoyez-nous vos idées et vos questions sur nos réseaux sociaux, on est preneurs. À la semaine prochaine !